Bonsoir et merci d'avoir affronté le froid quasi polaire qui s'abat sur Bordeaux en ce moment. Nous allons avoir d'autant plus de désir d'être performant, en tout cas de vous présenter cet ouvrage. Je suis Xavier Rozan, je suis l'éditeur de ce livre. Les questions que je vais poser à Dominique Dussol seront positivement critiques. Je vous laisserai la parole après si vous souhaitez en poser d'autres à Dominique Dussol. Je rappellerai simplement donc que cet ouvrage est paru il y a quelques semaines à peine, donc sur Pau Art Déco, qui couvre la période de l'entre-deux-guerres, qui fait suite à un travail universitaire de Dominique Dussol, qui est professeur à l'université de Pau et des Pays de la Dour en histoire de l'art contemporain, et qui travaille donc sur le territoire de Pau depuis de nombreuses années à travers des travaux scientifiques qu'il a donnés à ses étudiants et à travers ses propres recherches. Dominique Dussol est un historien de l'art bordelais, avant toute chose, où il vit, où il a longtemps travaillé et exercé. Et donc, il a aussi un regard sur Bordeaux et sur, évidemment, cette période qui l'intéresse tout particulièrement, qui est celle de l'entre-deux-guerres. Alors, peut-être pour être simple et pédagogique, ma première question, ça sera peut-être de définir simplement ce qu'est l'art déco.
Bien, donc bonsoir. L'art déco. Alors l'art déco, c'est bien entendu une contraction d'art décoratif, ce qui pose déjà une première ambiguïté, parce qu'on entend par art déco quelque chose de plus général, qui s'est d'ailleurs défini très tardivement dans les années 1960, tout d'abord dans un milieu plutôt d'antiquaire, qui parlait d'art décoratif de la période de l'entre-deux-guerres. Et le mot a fait fortune, il s'est élargi ensuite aux arts plastiques, à la peinture, à la sculpture, et puis à l'architecture, c'est-à-dire à tout l'art compris qui concerne la période 1919-1939. Bien. L'art déco fait donc suite à l'art nouveau autour de 1900. Alors je dirais que c'est une forme d'art, mais aussi je dirais plus un style de vie. Un style de vie parce qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale. Les Français sortent d'une période de privation, de frustration, et en fait ils veulent tourner la page. Ils veulent tourner la page, ils veulent oublier, exorciser un peu les millions de morts tombés sur les champs de bataille et aller de l'avant, aller vers le progrès, vers la modernité. D'ailleurs, ce mot de modernité est quelque chose qui va revenir sans arrêt dans cette période. Alors, ça se traduit, je crois, par un style de vie. Faut pas oublier que c'est l'époque, par exemple, qui correspond à l'émancipation de la femme, qui fume ostensiblement avec un fume-cigarette, qui, sur le plan vestimentaire, se libère du corset, qui se peigne à la garçonne. C'est l'époque aussi de la recherche du progrès, de la vitesse. Et donc, à Pau, c'est le premier Grand Prix automobile en 1933. L'époque aussi des congés payés, ce qui va avoir une grande incidence sur la vie économique paloise, dans la mesure où 1936, les congés payés, l'avènement du Front populaire, et donc un mode touristique très différent de la période précédente, qui était plutôt un tourisme de luxe. Voilà. C'est aussi, je dirais, l'époque d'une recherche de divertissement. On appelait à tort ou à raison ces années d'entre-deux-guerres les années folles, parce qu'effectivement, il y a eu peut-être un petit peu plus de recherche de plaisir dans les bals populaires, dans le music-hall, dans le cinéma parlant, qui apparaît également à Pau, au Palais des Pyrénées. Voilà, donc c'est un peu tout ce style de vie qui apparaît à ce moment-là et qui se traduit alors sur un plan formel. Donc je regrette fortement que nous n'ayons pas de vidéoprojection pour vous montrer quelques images. Sur le plan formel...
Elles sont dans le livre.
Elles sont dans le livre, absolument. Sur le plan formel, comment caractériser l'art déco? Je dirais par un style d'abord très épuré, par des formes géométriques, par des profils cassants, des volumes plats, des formes plutôt dynamiques. Voilà. Et donc voilà, c'est un peu difficile de définir en quelques mots l'art déco. Il faut tout de même penser qu'à la même époque, donc il y a un autre art qui émerge. Par exemple, pour vous donner quelques rappels, 1924, André Breton signe le manifeste du surréalisme. Dans les années 20, Le Corbusier édite la revue L'Esprit Nouveau et signe ce qu'on appelait ses Maisons Blanches. Marcel Duchamp, dans 1923, signe et laisse inachevé volontairement Le Grand Vert. Bon. Tout ça pour vous dire que parallèlement à cet art déco considéré comme plus populaire, qui correspond davantage peut-être à un art domestique, un art quotidien, il y a un art d'avant-garde également qui se développe parallèlement. Alors, le grand public à l'époque est bien sûr un peu réfractaire à cet art d'avant-garde, d'autant que dans la période précédente, dans les décennies précédentes, ces avant-gardes qui s'appelaient le fauvisme, le cubisme, le dadaïsme, le rayonnisme, le futurisme, etc., avaient été très importants. Mais le constat qu'on en fait, c'est que finalement, on aboutit à une grande catastrophe qui est la Première Guerre mondiale. Donc pour toute une partie du public, finalement, il vaut mieux se référer à un art, je dirais, plus tranquille, peut-être plus classique, et c'est ce qu'on a appelé le retour à l'ordre. Donc, pour résumer la situation de l'art déco, il y a deux orientations artistiques, une avant-gardiste, une autre retour à l'ordre, et c'est plutôt vers ce classicisme, ce nouveau classicisme, qu'on va interpréter l'art déco, que va se placer l'art déco. Je rappellerai que tout de même, à cette époque-là, des artistes comme Picasso ont aussi, dans les années 20, subi cette mode du retour à l'ordre et ont été aussi, ont produit des œuvres que l'on a qualifiées de néoclassiques. Donc voilà un petit peu, très grossièrement et brièvement résumé, ces années un peu complexes qui se cherchent, mais dont je crois le maître mot est quand même la recherche de la modernité.
Donc l'art déco, c'est un style artistique, c'est aussi un style de vie. Et ce qui est très important, je crois, dans cette période, quand elle concerne Pau, c'est tout ce qui tourne autour du tourisme. Et, voilà. Et je crois que le tourisme en réalité va faire venir, en quelque sorte, pour faire rapide, mais tu vas compléter, l'art déco à Pau.
Voilà, donc il faut faire un petit retour en arrière au 19e siècle pour expliquer ce phénomène assez original qui s'est passé à Pau. Peut-être citer ce médecin génial qui était un Écossais, qui s'appelait le docteur Alexandre Taylor, qui était venu se soigner à Pau pour bénéficier du bon air. Et il avait eu l'idée d'écrire un livre en anglais, donc, qui était diffusé en Angleterre, sur les vertus du climat palois. Livre qui peut-être n'avait pas de très grande vertu scientifique, puisqu'on y lit qu'à Pau, il ne pleut que la nuit, qu'on vit plus longtemps qu'ailleurs, que les maladies nerveuses, respiratoires, etc. sont guéries grâce au climat palois. Toujours est-il que ce livre a un très gros succès en Angleterre et fait venir en nombre des touristes anglais, puis bientôt américains. Le livre sera traduit l'année suivante en France, et donc on aura des touristes français, mais donc des étrangers qui viennent à Pau et qui ont la particularité d'y séjourner pendant 6 mois de l'année, c'est-à-dire qu'ils arrivent à peu près au début de l'automne et ils repartent à la fin du printemps. Et ils s'installent à Pau pour bénéficier donc de ce climat soi-disant exceptionnel. Ce qui a un effet extrêmement bénéfique pour l'économie paloise. Alors là, ce sont les belles années, c'est l'âge d'or palois dans la deuxième moitié du 19e siècle et autour de 1900, qui est la vie plutôt prospère. Et puis, la Première Guerre mondiale arrive. Pas mal d'Anglais et de Français disparaissent sur les champs de bataille. Les constructions, les villas anglaises qu'ils avaient construites à la périphérie de Pau restent fermées et donc le touriste ne revient pas. Il faut dire que ces touristes, on les appelait des hivernants parce qu'ils venaient pendant la période de l'hiver. Bien. Et précisément, dans cette période de l'entre-deux-guerres, l'ambition et l'obsession de la municipalité paloise va être de faire revenir ces touristes à Pau. Bon. Et donc toute la stratégie qui va se développer pendant ces deux décennies de l'entre-deux-guerres va tourner justement sur cette possible récupération des touristes anglais ou étrangers en tout cas, et tout va être mis en œuvre pour cette recherche des touristes.
Alors tout va être mis en œuvre, mais quoi ? Parce que en réalité, c'est une véritable révolution urbaine qui va animer Pau pendant cette période.
Tout à fait. Donc il va y avoir des grandes transformations urbaines, des équipements nouveaux. Je dois dire, par exemple, personnellement, lorsque je suis arrivé à Pau il y a 17 ou 18 ans pour mon travail, je m'étais un petit peu informé sur la ville et je m'attendais à voir une ville du 19e siècle, c'est-à-dire la ville des hivernants. Et dans le centre-ville, qu'est-ce que je vois ? Une ville de l'entre-deux-guerres. Donc j'essayais de comprendre au début pourquoi. Effectivement, c'est toute cette... Ces transformations résultent de la stratégie mise en place par les municipalités, et principalement une, qui est la municipalité du maire Alfred de la Sens, qui, au cours de son deuxième mandat, dans les années 30, va déployer beaucoup d'énergie pour transformer la ville, pour proposer un nouvel urbanisme, pour proposer de nouveaux équipements, et donc de grands travaux vont être établis. Travaux sur lesquels la ville de Pau, aujourd'hui, vit au quotidien.
Alors, ces travaux qui concernent donc l'urbanisme, mais aussi donc par force l'architecture, touchent à la fois des édifices publics, à des édifices religieux. Par contamination, en quelque sorte, ça va aussi toucher l'habitat domestique. Et alors, pour donner un exemple, peut-être, qui va parler au-delà de Pau, d'un bâtiment emblématique de cette période, c'est le Palais des Pyrénées, qui se retrouve donc au centre de la ville et qui a une fonction bien particulière. Et puis, il y a aussi tout un travail, enfin un travail des réalisations, en vue de réaliser des hôtels de très grand luxe, des palaces, qui montrent bien l'ambition, un peu à contre-temps, de la municipalité de Paloise, de rattraper un peu le terrain perdu pour se redonner une caution touristique à l'image de ce qui se passe sur la côte basque. Alors à la fois, on a ces réalisations prestigieuses qui apparaissent et elles sont à contre-temps. Alors comment ça se passe concrètement à travers un ou deux exemples un peu précis ?
Alors, effectivement, le Palais des Pyrénées, qui a été la construction un peu emblématique de cet entre-deux-guerres, qui a été par la suite un peu mal aimé, mais qui était vraiment une construction extrêmement originale. Le Palais des Pyrénées, alors pour raconter un petit peu son histoire, le maire Alfred de la Sens décide de créer un nouveau centre, parce que le centre ville de Pau, c'était la place royale, pour ceux qui connaissent Pau, je pense qu'il y a des Palois ou des Béarnais qui sont dans la salle, donc c'était la place royale, qui était la place des Anglais, si vous voulez, place ombragée, place de l'hôtel de ville, avec la statue d'Henri IV, très bien. Il y a quelques centaines de mètres de là, eh bien, il y avait un grand désordre avec des immeubles vétustes, dont une vieille halle, dont un ancien couvent, la salle avait la grande idée, la Sens, pardon, avait la grande idée de dégager, de démolir ces anciens bâtiments pour en faire d'abord un espace public. Bon, alors ça, c'était une grande opération d'urbanisme. Bien entendu, il n'y avait pas d'argent dans cette période. Et il va trouver un promoteur qui s'appelle Henri Lilas, qui était un homme politique, radical de gauche, député au Laurent-Sainte-Marie, etc. Et Lilas lui propose un marché. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Mais il lui propose un marché. Il dit, voilà, je m'occupe de la démolition de cette ancienne halle et de ce couvent et de la chapelle. Je rase à mes frais tous ces bâtiments. Je construis une sorte de palais du commerce, de complexe. Et comme c'est pas suffisant, alors donc j'en aurai les bénéfices, bien entendu, donc avec une concession. Et en plus, je construis à mes frais un musée et une bibliothèque municipale qui manque cruellement à Pau. Donc, évidemment, le marché est très intéressant et le maire accepte. Et c'est ce qui se fait. Et voilà donc quelque chose, un montage financier très original, qui vaut à Pau, d'un seul coup, trois édifices publics modernes, construits en béton armé. Le promoteur Henri Lilas fait venir un architecte de Paris, un jeune architecte qui a 29 ans, qui s'appelle Ruillier, Jacques Ruillier. Et qui construit trois bâtiments, on va dire modernes, modernistes absolument, la bibliothèque, le musée et cette espèce de grand complexe commercial qui va être le Palais des Pyrénées. Alors, c'est quelque chose, il est construit sur cet emplacement du couvent des Ursulines qui est démoli. Et devant, on construit, on trace la place qui est aujourd'hui la place Clémenceau. Ce palais des Pyrénées, alors palais, il n'en a que le nom de palais, parce que c'est un palais sans colonnes ni fronton, qui est un bâtiment bas à l'origine, couvert d'un toit terrasse en béton armé, et qui est une sorte de complexe commercial avant la mode, avec des commerces de semi-luxe, je dirais. Il y a une agence Havas, il y a un garage Citroën, il y a des magasins de prêt-à-porter, etc. Et l'idée de génie, c'est d'associer ce palais du commerce à un palais des fêtes. Et vont se dérouler dans ce monument, eh bien, les spectacles à la mode, c'est-à-dire que Édith Piaf vient faire un tour de chant, Marcel Cerdan un match de boxe, l'orchestre de jazz de Jacques Hilton vient se produire, on organise un cinéma parlant, qui est le cinéma des Pyrénées, un golf miniature, un mini-casino avec une salle de baccarat, etc., etc. Et voilà lancé, si vous voulez, le nouveau centre de Bordeaux, de Pau, excusez-moi. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, par cette initiative semi-privée, semi-publique, eh bien, on va créer un monument qui est, pour une fois, destiné aux Palois. C'est-à-dire pas forcément aux étrangers, comme c'était le cas précédemment, pas seulement pour les hivernants, mais pour les Palois. Et donc ce palais des Pyrénées, moi je le défends par son architecture d'origine, c'est-à-dire une architecture très puriste, un bâtiment très bas, avec une architecture très, très dénudée, bien entendu. Voilà. Et donc, tout se passe bien pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on réfléchisse au bout de... dans les années 40, je crois, je ne sais plus. Et on se dit, mais vraiment, ce palais des Pyrénées, c'est très, très bien, ça fonctionne très bien, mais il gêne la vue sur les Pyrénées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir la chaîne des Pyrénées. Donc on va, une première fois, avoir l'idée de faire une saillie et un grand axe médian, c'est-à-dire qu'on coupe ce palais, déjà, une première fois, en deux parties. Bon, c'est plutôt bien fait.
C'est à quel moment que ça intervient, alors, cette première... assez vite, je crois.
C'est quand même assez vite, c'est-à-dire dans les années... l'inauguration du Palais des Pyrénées, dans son état d'origine, date de 1930, et je pense que c'est dès les années 40, à peu près, qu'on a l'idée de faire cette saillie. Elle est plutôt bien faite par un architecte palois qui s'appelle Henri Hector Viard, qui avait été l'assistant de Ruillier, donc il poursuit un peu le style, et on trace cette voie qui s'appelle aujourd'hui l'avenue de Lattre de Tassigny, entre le bâtiment d'origine. Lequel bâtiment d'origine, j'ai oublié de le dire, avait une sorte de coupole en son centre, qui était la salle de spectacle, qui va être démolie pour faire cette espèce de saignée. Bon. C'est pas trop grave, le bâtiment a encore conservé son élégance, sa nudité aussi, ce style très, très pur d'origine. Mais dans les années 50, au moment où on découvre le gaz de Lac, eh bien on pense qu'il va falloir accueillir les cadres, les familles des cadres à Pau. Et on a l'idée assez saugrenue de construire deux grandes barres et deux hautes tours sur le palais des Pyrénées. Et à partir de ce moment, le bâtiment est absolument dénaturé et à tout jamais. Et donc nous héritons aujourd'hui de cette espèce de surcharge pondérale sur le bâtiment qui l'a massacré à tout jamais, même si récemment une rénovation a relancé les commerces. Mais je veux dire que... On vit malheureusement avec cette verrue, alors qu'à l'origine, c'était un bâtiment très, très pur.
Alors, Palais des Pyrénées, c'est amusant ce terme, parce que il y a le Palais d'Ossau, donc tu vas peut-être dire deux mots, parce que c'est une aventure architecturale, immobilière d'abord, et architecturale assez, assez passionnante. Le Palais Beaumont, etc. On voit quand même que Pau, à travers ses titres, ses statuts qu'elle donne aux immeubles, a véritablement l'ambition de se hisser très haut dans un certain standing pour accueillir le tourisme haut de gamme. Alors justement, le palais d'Ossau, lui, il a vu sur les Pyrénées directement.
Oui. Alors, donc le palais d'Ossau, là, on quitte l'architecture publique. Hein. Juste deux mots sur l'architecture publique. Donc il faut dire qu'en peu d'années, on a quand même construit un nouveau casino sur l'emplacement de l'ancien.
Donc c'est le palais Beaumont.
Aujourd'hui, c'est le palais Beaumont. Voilà. Alors c'était l'ancien palmarium, c'est-à-dire qu'en 1899, il y a un premier casino qui est une attraction avec un jardin d'hiver immense qu'on appelle le palmarium. Et puis, assez vite, ce casino fait faillite. Pendant la Première Guerre, la Croix-Rouge s'y installe. Toute cette verrerie, il faut l'entretenir. Bon, et finalement, le casino est fermé. Ce qui fait que je dis deux mots du casino parce que c'est très important, notamment pour le maire de l'époque, Alfred de Lassens, qui ne conçoit pas une ville de Pau sans casino, qui est le pivot, évidemment, pour attirer les étrangers. Donc on va... tergiversé pendant un certain temps, jusqu'à ce que, à nouveau, le maire trouve un nouveau promoteur qui s'appelle le comte Odon de Béarn, qui va financer un nouveau casino. Alors c'est toujours pareil, il faut faire une sorte de, pour employer un mot d'aujourd'hui, un deal particulier, c'est-à-dire que dans l'enveloppe, Odon de Béarn restaure le casino, on fait quelque chose de tout à fait nouveau d'ailleurs, et propose la construction d'un grand hôtel palace, qui sera le palace, l'hôtel d'Aragon, qui ne sera d'ailleurs jamais hôtel. Bien. Et donc on fait venir un autre architecte. Là encore, on voit que il n'y a pas de plan concerté à Pau, contrairement à Bordeaux, où finalement un architecte du Palais des Pyrénées, du musée et de la bibliothèque s'appelle Jacques Ruillier et propose un style très moderniste. Le nouvel architecte du Casino de Pau s'appelle Jacques Vibault. Il a fait ses preuves déjà, puisqu'il a construit le Casino de Deauville. Il ne va pas se compliquer la vie. Il va reconstruire le Casino de Deauville à Pau. C'est-à-dire, c'est un peu plus compliqué parce que il garde des parties de l'ancien casino, mais il refait ce casino de Deauville à Pau. On construit une nouvelle préfecture parce qu'elle avait brûlé. Voilà, donc des tas d'édifices publics, effectivement. Et bien entendu, l'architecture privée prend le relais. Je dirais que contrairement à, puisque tu me parlais du Palais d'Ossau, contrairement à Bordeaux, on va construire dans le centre de Pau des immeubles collectifs, alors que c'est très rare à l'époque à Bordeaux. Des immeubles collectifs qui sont de grands ou de moyens standing. Hein, tout dépend de l'importance, tout dépend de l'opération immobilière. Mais il va y en avoir un certain nombre. Et effectivement, ce palais d'Ossau, admirablement bien situé, dans le prolongement, enfin sur le boulevard des Pyrénées, donc cette frange, ce boulevard construit à la fin du 19e siècle. Et donc là, on construit un immense immeuble de grand standing, qui est une sorte de, je dirais presque de, on dirait un peu un paravent qu'on a déroulé, et qui, incarne un peu cette nouvelle architecture paloise de l'entre-deux-guerres, qui est plutôt une architecture, je dirais, hygiéniste. C'est-à-dire que on va désormais proposer d'abord un toit-terrasse, qui est un solarium à l'origine, hein, pour prendre le soleil et pour voir la vue sur les Pyrénées. On va proposer une architecture avec des grandes baies pour faire pénétrer l'air et le soleil. Et c'est, je veux dire, le palais d'Ossau en est un peu l'illustration. Alors effectivement, palais d'Ossau, pourquoi ce mot palais ? Ben parce qu'on aime bien ce terme à Pau. Ce qui est amusant, c'est que dans un rayon très limité, on a une espèce de trilogie palatiale, comme ça, le palais des Pyrénées, le palais d'Ossau, en face, le palais d'Aragon. Sinon de palais que le terme, si ce n'est tout de même le grand standing de cet immeuble.
Voilà, et pour ceux qui ne connaîtraient pas Pau, le boulevard des Pyrénées, donc c'est une espèce de front de mer. Front de montagne, mais il y a encore cette référence quand même à la vue qui est tellement importante pour la villégiature en bain de mer. Mais bien évidemment, le thermalisme, c'était... Enfin, Pau n'est pas concerné directement par le thermalisme, mais c'était avant. Et donc, qui fait face à ce qu'on appelle les horizons palois. Et alors, une référence un petit peu amusante aussi au plaisir nautique. Pau a aussi voulu avoir sa plage, ce qui ne se conçoit pas forcément de toute évidence, même avec le Gave à proximité.
Voilà. Donc ça, c'est le grand complexe palois qui intervient dès le 19e siècle. C'est-à-dire que lorsque l'urbaniste Alphand propose le boulevard des Pyrénées, on se met déjà à rêver à Pau et on dit c'est la promenade des Anglais, on va mettre des palmiers, etc. Mais il manque, effectivement, il manque la mer. Bon. Le problème réapparaît beaucoup dans l'entre-deux-guerres parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que entre-temps, avec justement ce tourisme, je dirais plus populaire peut-être, qui se développe, les touristes se sont déplacés de Pau à la côte basque. Le slogan Pau, ville d'hiver, bat de l'aile un peu devant l'autre slogan rival qui est Biarritz, reine des plages. Voilà. Effectivement, il manque une plage à Pau. Donc, on fait des projets. Et en 1922, Il y en a un qui a pris forme, que j'aurais aimé vous montrer. Il a pris forme. Il s'est résumé à une maquette, mais une maquette qui a été publiée, qui a été présentée à la municipalité, etc., qui était une sorte de projet qui peut annoncer peut-être ce qu'on trouve dans les aqualandes, je ne sais pas comment
oui,
ça s'appelle.
Oui, avec une espèce de toboggan comme
voilà.
ça.
Donc, partant du boulevard d'Aragon, c'est-à-dire de la ville haute, et rejoignant la ville basse vers la gare, il y avait toute une succession de toboggans, de passerelles qui descendaient vers un lac artificiel qui aurait été alimenté par le gave de Pau avec un système de barrages, d'écluses, etc. Une plage de sable fin, une grande piscine sur pilotis et des canoës un petit peu partout pour des fêtes nautiques, etc. etc. Et donc la presse ne tarissait pas d'éloges pour ce projet qui, bien évidemment, est donc tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Ce qui est amusant, c'est que quand même assez régulièrement, même à une époque récente, on peut lire dans la presse que finalement, vers la plaine de Gélos, on pourrait faire toujours un lac artificiel. Il y a toujours ce complexe de l'eau et qui ne remplacera jamais la mer, bien sûr, mais il y a la belle chaîne des Pyrénées qui est quand même présente.
Alors, il y a une citation d'un journaliste de l'époque qui commente cette maquette, qui est effectivement quelque chose de très moderne. C'est assez étonnant. Hein. C'est assez rapide. Je vais la lire parce que elle donne quand même le ton, l'esprit de l'époque, de cette époque Art déco. Alors, il dit un lac à Pau, mais ce serait l'ère de nouveaux attraits, fêtes nautiques diurnes et nocturnes, courses de canots automobiles, régates, création de centres de sport, de plages artificielle pour adultes et enfants, et que ne mettrait-on pas encore en œuvre pour attirer le voyageur, le sportman, maintenir enfin la réputation mondiale de notre belle cité béarnaise. Et il conclut, la ville de Pau n'aurait plus rien à envier à certaines autres villes climatiques ou balnéaires.
Voilà. Et je dois dire que ce complexe de la plage, il se traduit, peut-être que je peux montrer une image tout de même, par une affiche publicitaire de Pau dans les années 30, je ne sais pas si vous pouvez la voir, voilà, qui est très connue, qui est souvent reproduite aujourd'hui, et qui est assez symptomatique parce que, d'abord, elle a un graphisme, une esthétique très années 30, enfin très, très art déco, par le lettrisme. Ce qu'on y lit d'abord, c'est « Villes climatiques d'hiver », bon, ça, c'était classique, mais on a ajouté « centre touristique d'été ». Donc, on voit bien qu'on veut que la ville soit ouverte aux touristes toute l'année. Et on voit très bien des palmiers surdimensionnés qui sont presque plus grands que la tour Gaston Phébus du château d'Henri IV. Et puis, au centre, alors bien entendu, on a la chaîne des Pyrénées au loin, qui est l'attraction. Et puis, ce boulevard des Pyrénées, ben, le graphiste l'a mis en jaune, comme une plage de sable fin, qu'il n'y a pas à Pau, mais qu'on aimerait bien. Et il y a placé des gens en pantalon golf et en raquette de tennis, hein, des sportsmen, comme on disait à l'époque. D'ailleurs, Pau est une ville sportive et élégante, mais aussi une ville moderne. Et c'est tout cela que dit cette affiche, je trouve, avec cette obsession de la mer à la montagne.
C'est quand même très amusant dans ta description de cette affiche que tu oublies à ce point la référence au château de Pau et à la tour, voilà. Et qui devient du coup très moderne et très, très, très art déco, mais qui fait évidemment partie des attraits touristiques et promotionnels de Pau, la cité d'Henri IV. Alors, Pau n'a pas les bains de mer, n'a même pas de plage, a des piscines, quelques-unes, mais elle a d'autres avantages, et elle a ce qu'on appelle aujourd'hui des espaces verts. Mais le maire, l'ancien maire de Pau, André Labarrère, avait même écrit un livre sur Pau, la ville jardin. Et effectivement, c'est quelque chose qui va aussi être très important dans le dessin de la ville moderne de l'entre-deux-guerres.
Oui. Absolument. Alors, cet engouement pour les espaces verts, pour les aménagements paysagers, a bien sûr commencé dès le 19e siècle, notamment toute la montée de la gare vers le plateau de la ville haute a été aménagée dès le 19e siècle avec une palmeraie qui indique toujours cette volonté climatique de Pau. Bien. Au cours de l'entre-deux-guerres, on va faire venir un paysagiste de Tours qui s'appelle Léon de Corge. Et de Corge va illustrer cette volonté municipale d'aménager la ville en jardin. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose au parc Beaumont, qui existait déjà, une sorte de petit jardin miniature, en quelque sorte, qui est un condensé de toute la flore de montagne. Voilà. Et alors, au départ, c'était un peu une erreur, il avait appelé le jardin alpin. Ils ont vite rectifié cela pour l'appeler le jardin pyrénéen. Voilà. Et donc, petit plan d'eau, et aujourd'hui encore, on peut se promener au parc Beaumont dans le jardin pyrénéen. Et puis, comme c'est une ville qui est maintenant touristique l'été également, eh bien, il aménage un jardin, un théâtre de verdure qui existe encore aujourd'hui un peu sous une autre forme. Il a été un peu réaménagé par la suite, mais c'est toujours de Corge qui propose aussi une roseraie, qui propose quelques palmiers il y en a eu sur le belvédère de la place Royale. Il y en a eu également autour de quelques églises. Donc on continue véritablement cet effort pour rendre Pau attractif sur le plan des espaces verts. Peut-être que je peux citer aussi un projet très intéressant d'un urbaniste qui s'appelait Léon Josely. Ce n'est resté qu'à l'état de projet, mais Josely a été un personnage assez intéressant sur le plan national dans l'entre-deux-guerres. Il était toulousain. Il a été surtout connu et lancé par son extension de la ville de Barcelone. Et puis, il a fait des plans d'agrandissement, d'extension et d'embellissement pour la région parisienne, pour Toulouse, pour Carcassonne, pour Tarbes et pour Pau. Et alors, à Pau, il propose un plan très ambitieux, un plan d'urbanisme très ambitieux, avec des zones par catégorie socio-professionnelle, avec une hiérarchie dans l'aménagement de la voirie, et surtout des espaces verts, avec ce qu'on appelle des coulées vertes, c'est-à-dire des grands espaces verts qui font se rejoindre plusieurs artères. Josely avait également prévu, alors ça c'était peut-être un peu utopique, mais de déplacer la gare vers la ville de Billère, d'aménager le quartier du Hédas, qui était un ancien quartier. Mais donc, alors le plan Josely, malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale est arrivé, et puis le plan était trop ambitieux, ne sera pas réalisé. Finalement, un autre plan d'urbanisme va prendre la suite. Mais ce plan d'urbanisme revu à la baisse, qui sera réalisé, va tout de même retenir quelques idées du plan Josely, et notamment cette grande entrée triomphale à Pau, lorsqu'on quitte l'autoroute, et cette grande artère verte, n'est-ce pas, et aussi des allées cavalières. Alors, des allées cavalières, on disait à l'époque, pour le sport hippique, équestre, voilà. Qui sont aujourd'hui des grands axes, comme les allées de Morlas, des choses comme ça.
Alors, pour bien comprendre encore une fois à quel point Pau, au-delà de la ville elle-même, a valeur d'exemple, et je crois que par rapport à l'importance de la ville, il y avait à peu près 50 000 habitants dans les années 30, c'était pas énorme. Je crois véritablement que la transformation urbaine architecturale a été proportionnellement peut-être plus ambitieuse que dans des villes plus magistrales, avec des exemples plus réussis, plus forts peut-être, comme comme Lyon ou comme Bordeaux. Mais il y a un sujet où Pau est véritablement à la pointe, c'est sur l'architecture religieuse. Il y a eu, à ce moment-là, à la fois des travaux qui ont été engagés et puis aussi des choix esthétiques qui ont été pris qui mettent la Pau véritablement à la pointe de la modernité.
Tout à fait. Alors, juste pour revenir un peu sur le début de ta question, proportionnellement, effectivement, les transformations urbaines de Pau dans l'entre-deux-guerres sont très importantes pour l'importance de la ville. Alors évidemment, par rapport à Bordeaux, sans doute, ça paraît peut-être plus minime. Faut dire qu'à Bordeaux, les équipements étaient un peu plus concertés, un peu plus harmonisés qu'à Pau. Mais effectivement, je crois que la grande originalité de Pau dans l'entre-deux-guerres, c'est l'architecture religieuse. Je crois que, en tout cas, pour l'Aquitaine, et pour cette période, il n'y a pas d'équivalent, hein, même à Bordeaux, bien entendu, parce que véritablement, on a construit à Pau de nouvelles églises, on a créé de nouvelles paroisses, et tout ça dans cet esprit de l'entre-deux-guerres où on a voulu évangéliser les banlieues, où on a voulu. Je vous rappelle qu'à Paris, le cardinal Verdier avait lancé ses 100 chantiers, hein, c'était les chantiers du cardinal, c'est-à-dire il avait fait le pari de construire 100 églises nouvelles dans un peu de temps, et il y est parvenu. Et à Pau, c'est un peu ce phénomène qui se produit avec de nouvelles paroisses, de nouvelles églises toutes neuves. Donc il y a l'église Notre-Dame qui est très repérable avec son clocher surmonté d'une statue. Il y a l'église Saint-Joseph, qui est cette petite église néo-byzantine toute blanche que les Palois avaient appelée la mosquée, mais qui est une église très, très catholique.
Qui est entourée de palmiers.
Qui, aussi, à l'origine, a eu des palmiers, effectivement, sur son parvis même. Et puis, surtout à l'entrée de Pau, à Lons, c'est l'église Saint-Julien. Donc, ce sont des nouvelles architectures. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est également une décoration intérieure qui suit avec vraiment, et qui participe de ce renouveau de l'art sacré dans l'entre-deux-guerres. On a vraiment à la fois des artistes locaux qui se distinguent, je pense au sculpteur Gabart, par exemple, à l'église Notre-Dame, mais aussi des maîtres verriers comme les Mauméjean et des mosaïstes, et des peintres comme René-Marie Castaing. Donc vraiment un ensemble d'artistes locaux qui vont pouvoir vraiment se réaliser dans ces églises paloises. Et on fait également appel à des artistes plus nationaux, qui ont travaillé d'ailleurs sur les chantiers du cardinal Verdier. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel, je crois, dans la région.
Alors, ce qui est intéressant aussi à travers la construction de ces églises, c'est le rôle que certains prêtres ont joué, des véritables prêtres bâtisseurs, hein, qui ont porté par leur obstination pendant des années, parfois quelques décennies, ces chantiers-là. Mais on ne peut pas rentrer dans ce détail. En revanche, ce que tu peux peut-être aborder maintenant, parce que c'est un volet très important du livre, qui est un livre extrêmement documenté, très lisible, mais aussi un album d'images. Et puis parce qu'il va y avoir aussi une exposition au Musée des Beaux-Arts de Pau en septembre sur ce thème-là, c'est celui des Beaux-Arts. Alors est-ce que il y a eu la même modernité qui s'est exprimée à travers la production artistique de l'époque. Et comment s'est-elle exprimée ?
Oui. Alors, effectivement, il y a eu, je dirais, presque un petit moment de grâce pendant cette période de l'entre-deux-guerres où la production artistique a été très dynamique à Pau. Je l'interprète de cette façon, je ne sais pas si j'ai raison, mais peut-être que le point de départ, ça a été un artiste local qui s'appelle René-Marie Castaing et qui a obtenu le premier Grand Prix de Rome. Bon, ça a été une espèce d'encouragement, j'ai l'impression, et d'émulation pour les autres artistes pour se dire, ben oui, à Pau, on a un premier prix de Rome. Il a obtenu en 1921, je crois. Et ensuite, il a fait carrière à Pau, ce René-Marie Castaing. Bon, il a fait une carrière assez importante en tant que portraitiste de la société paloise, mais aussi peintre décorateur et peintre religieux. Et donc, dans tout le Béarn, on a des décors assez importants et vraiment de grande qualité de ce Castaing. Ce qui est un peu exceptionnel, c'est l'entente des artistes entre eux, c'est-à-dire Castaing, très ami du sculpteur Ernest Gabart, lui-même très ami du photographe qui s'appelait Jauvet, eux-mêmes très en lien avec les maîtres Verrier, Mauméjean, l'illustrateur Paul Mira, etc. Il y a toute une petite société artistique extrêmement dynamique, alors qui expose bien sûr officiellement au Salon des Amis des Arts de Pau, qui est donc un salon annuel, et qui se confronte avec d'autres artistes plus parisiens. Mais c'est aussi le moment où on voit éclore des lieux d'exposition, des galeries qui apparaissent, voilà. Et donc une sorte de dynamique tout à fait extraordinaire qui, me semble-t-il, disparaît après la Seconde Guerre mondiale, disparaît après cette génération d'artistes, voilà.
Et puis il y a le musée des Beaux-Arts, qui est présent à double titre dans cet ouvrage, puisque c'est aussi une architecture de cette époque, très, très, avec un programme qui correspond aussi à celui de la bibliothèque juste à côté, très pur, très, très stylisé. Deux mots de l'architecture privée, l'architecture domestique, deux mots malheureusement, car le temps presse, peut-être un petit peu plus. Mais alors, là aussi, il y a des initiatives privées, et c'est, je crois, un énorme travail de recherche et d'inventaire qui a permis de les recenser, sans doute pas toutes, mais un très grand nombre pour cet ouvrage. Alors, il y a un style art déco. On sait que sur la côte basque, il y a le néo-basque qui apparaît, le style néo-basque. Il y a du néo-basque à Pau et en Béarn. Le néo-basque, on le retrouve un peu partout dans le monde. Mais est-ce qu'il y a du néo-béarnais?
Alors, donc j'ai retrouvé quelques traces de néo-béarnais. C'est-à-dire qu'il y a eu, en fait, un concours qui a été organisé par l'Académie de Béarn à l'époque pour lancer un style néo-béarnais, puisque le style néo-basque marchait tellement bien que pourquoi n'y aurait-il pas un style néo-béarnais? Bon, je pense qu'il n'y a pas... Donc ça n'a pas pris, bien entendu. Il y a eu quelques tentatives que j'ai relevées dans le livre. Pourquoi le style néo-béarnais n'a pas marché? Parce que les caractéristiques de la maison rurale béarnaise ne sont pas aussi évidentes, me semble-t-il, que la maison basque, avec son toit asymétrique, avec ses pans de bois, ses volets rouges ou verts, ses murs de pin à la chaux, etc. La maison béarnaise, les architectes palois, ce qu'ils avaient essayé de traduire, c'est effectivement des murs, des toitures extrêmement pentues, comme dans la montagne, pour que la neige puisse tomber, mais c'était à peu près les seules caractéristiques. Donc, difficile d'abord de dégager un style néo-béarnais, d'autant que les Basques avaient bénéficié d'un théoricien qui s'appelait Godbarge et qui avait, dans les revues nationales, lancé le style néo-basque. Et donc, les Palois vont adopter, quand même en nombre, je dois dire, dans la périphérie de Pau, ce style néo-béarnais à différentes échelles. Il y a des petites maisons très modestes néo-basques. Voilà. D'autres d'immenses, presque des immeubles néo-basques. Voilà. Et ça va être la grande mode. Voilà. Et ce qui est aussi une différence par rapport à Bordeaux, où on a quand même dans les années de l'entre-deux-guerres relativement peu ce style. On a plutôt une maison de ville avec un décor sculpté très plat, voilà, une espèce de chic un peu urbain, alors que à Pau, on va avoir quand même, même si on n'arrive pas à avoir du néo-béarnais, on va avoir ce goût régionaliste qui se répand à cette époque.
Et toutes les belles histoires et les belles aventures ont une fin. La Seconde Guerre mondiale impose un arrêt net à cette période de la modernité. Qu'est-ce qui se passe après ?
Alors, ça se termine mal, cette histoire. Ça se termine très mal parce que, évidemment, les rêves palois sont des rêves déçus, puisque les touristes ne sont pas revenus. Il y a un événement qui marque un peu la fin de cette espérance, de ces grandes espérances. On l'a cité tout à l'heure, c'était cet hôtel d'Aragon qui devait être un hôtel de grand standing que l'on avait prévu sur le boulevard des Pyrénées. Et puis 1929 arrive, le fameux jeudi noir de Wall Street arrive, la banque est américaine d'ailleurs, la banque qui finance cet hôtel d'Aragon est américaine, et elle a fait faillite, et donc on ne peut plus financer ce bâtiment qui est en construction, et on arrête les travaux. Bon, ils reprendront beaucoup plus tard, après la Seconde Guerre. On n'en fera plus, cette fois-ci on est raisonnable, on n'a plus à en faire un palace, mais plutôt un immeuble de grand standing, donc avec des appartements. Mais cet échec a été quand même assez cuisant pour le maire Alfred de Lassens, puisque ça a entraîné sa démission, et donc démission du conseil municipal, qui marque un peu la fin de cette stratégie touristique qui n'a bien entendu pas... Alors, je dis bien entendu, c'est très facile aujourd'hui, avec le recul, de dire mais il pouvait bien voir que l'époque avait changé. C'est peut-être plus difficile d'apprécier les choses sur le moment. Toujours est-il que... voilà.
Mais il reste un beau patrimoine de beaux
décors.
Il reste
effectivement voilà. Un beau patrimoine de cette époque à Pau. Patrimoine qui n'a pas toujours été apprécié à sa juste valeur. Donc très modestement, si ce livre peut attirer l'attention des Palois, je le souhaite. Je citerai quand même une démolition très regrettable qui date des années 1979, je crois, ou peut-être 78, je ne sais plus, qui est la crypte d'une chapelle art déco, qui était la crypte de l'église du Sacré-Cœur, qui était entièrement art déco, qui avait un décor très original, avec une chapelle dédiée à Saint-Christophe. Saint-Christophe, c'était le patron justement des touristes et des voyageurs. Donc un paquebot, un train, un aéroplane, tout ça était peint sur les murs, avec un lettrisme art déco, enfin, une ferronnerie, tout était merveilleusement dans son jus. Et on a démoli, donc, dans les années 1975-79 à peu près, cette église et cette crypte pour le remplacer par un immeuble de rapport sans intérêt. La mutilation du palais des Pyrénées le montre également. Donc ce patrimoine est quand même fragile et j'espère qu'il sera... respecté.
Mais il y a des photos de la crypte, de cette crypte avec ses vitraux très modernes dans le livre, puisque le service d'un inventaire, à l'époque dirigé par Jean-Claude Lasserre, avait fait des photographies. Et je tiens à préciser que cet ouvrage a bénéficié du concours de la photographe Adrienne Baroche et du service de l'inventaire de la région Aquitaine pour les photos contemporaines.